Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Benoît Pelloil est avec nous, le directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Grégoire.
Merci d'être là. Merci à Arnaud Morel d'être avec nous également. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Grégoire.
Vous êtes directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management et Nicolas Gotzman qui nous accompagne également. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la stratégie macro à la financière de la Cité. Je le disais, Nicolas, la fin du printemps approche. On va rentrer dans le mois de juin qui sera un mois de baisse de taux évidemment pour la Banque Centrale Européenne. Le 6 juin prochain, date symbolique s'il en est pour l'Europe. Bon, j'imagine, on aura encore une estimation rapide d'inflation pour le mois de mai, zone euro, la semaine prochaine, mais tous les obstacles sont levés en vue d'un consensus parfait, unanime même, pour une baisse de taux le 6 juin prochain.
Alors, unanime, je ne sais pas. En tout cas, le consensus a été obtenu. Ça, c'est voilà, le consensus a été obtenu. Je pense que ça a été confirmé, notamment aujourd'hui, par Isabelle Schnabel, qui, à mon avis, n'est pas vraiment la plus favorable à une baisse de taux. Mais je pense qu'ils se sont mis d'accord, effectivement, qu'on ait cette baisse de taux au mois de juin. Par contre, la discussion maintenant va porter vraiment sur le cycle de baisse. Est-ce qu'on va continuer ou pas dans ce sens-là? Et là, elle a dit aujourd'hui que oui, il y a une opposition qui est là. Et d'ailleurs, elle a été, je pense, assez franche sur la situation. Elle dit en gros, elle pense que le dernier kilomètre dans l'inflation va être difficile à accomplir. Elle indique également qu'elle voit bien qu'au sein des gouverneurs, il y a une partie qui considère que, enfin, qui ne croit pas à cette théorie-là et qui considère que le retard pris par l'économie européenne sur l'économie américaine, couplé à la baisse réelle de l'inflation en zone euro, est suffisante pour pouvoir justifier un cycle de baisse de taux un peu plus agressif que ce qu'elle envisage. Donc pour le moment, on a vraiment ce débat qui existe et la question maintenant, ça va effectivement être celui de savoir qui est... quelle majorité va pouvoir ressortir de la BCE. Pour le moment, on va dire depuis deux ans, on a clairement une majorité qui est favorable, on va dire, à une politique qui est plus stricte qu'on aurait peut-être pu l'imaginer à un moment. Il y a peut-être un rééquilibrage qui est en cours, mais je pense qu'actuellement, on a encore une majorité qui est un peu plus haute que je ne le souhaiterais, par exemple.
Oui, oui, j'entends.
Et qui n'ira pas beaucoup plus loin. Donc, on peut dire que juillet paraît peu probable, à moins qu'on ait vraiment des données qui soient satisfaisantes. Mais même si on avait des données satisfaisantes, je pense qu'ils veulent maintenir les choses en l'état et pouvoir éventuellement penser à ce qui se passe pour la suite, ce qui dépendra également de ce qui se passe du côté américain.
Ouais. Qu'est-ce qui pourrait faire évoluer ce consensus vers quelque chose d'un peu plus systématique, effectivement, dans ce cycle de baisse de taux? Nagel le disait également dans les Échos cette semaine, il refuse toute idée d'un pilotage automatique ou de baisse de taux en pilote automatique au-delà de celle de juin. Est-ce qu'il y a un moment, il y a un risque de voir l'inflation chuter à des niveaux qui pourraient redevenir préoccupants? Je force un peu le trait, mais qui serait le signe qu'il y a un risque d'undershooting sur l'inflation pour la Banque Centrale Européenne. Un des gouverneurs, alors pas dans la zone marque, mais plutôt dans la zone sud, Mario Centeno, qui s'exprimait la semaine dernière, gouverneur de la Banque du Portugal, il décrit une inflation qui chute en zone euro. Il parle d'une inflation qui est en train de falling, de tomber. Et il estime que cette chute est soutenable encore devant nous. Si effectivement c'est ce risque-là qui se matérialise, est-ce que ça peut faire évoluer quand même la fonction de réaction de la Banque Centrale Européenne à un certain point?
Alors oui, mais après publication des données, je pense effectivement ce risque existe. Si on a eu les données du PIB allemand aujourd'hui, si je regarde le déflateur de la consommation allemande, sur les 6 derniers mois, on est à 1,47 en termes d'inflation, en annualisé, donc c'est vraiment, on est déjà à un niveau qui est très faible. Et quand on regarde surtout les causes de l'inflation en Europe, quand on voit qu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de consommation en Europe depuis 2019, on est en gros en stagnation quasiment totale. Donc on ne peut pas dire que l'inflation européenne a été portée par la demande de façon exagérée. Ce n'est pas le cas. Et donc on a effectivement un risque de voir une neutralisation de la situation et effectivement d'avoir une inflation qui passe en dessous du seuil envisagé. Ce n'est pas du tout une certitude. J'ai pas une réponse absolue à cette question-là, mais c'est un risque qui est pris. Mais le plus malheureux là-dedans, c'est qu'en fait, si on avait une inflation qui serait vraiment durablement en dessous de 2% qui revenait à cette situation-là, ça serait simplement le symptôme d'une économie qui n'avance pas. Et ça, par contre, je pense que les choses sont claires. Cette économie n'avance pas. Quand on regarde encore une fois les données du PIB allemand, on a effectivement une croissance de 0,2% sur le trimestre. Quand on regarde le détail, c'est un peu une catastrophe. C'est-à-dire qu'on a la demande domestique, même en nominal, la demande domestique est en négatif sur le trimestre. Si je regarde les données, en gros du secteur privé, que ce soit consommation ou l'investissement, on revient toujours à peu près à des niveaux qui sont comparables à ceux de 2017. Et si je regarde, si je fais simplement une comparaison de ce qu'on appelle le PIB cœur, c'est-à-dire en gros la somme de la consommation privée et de l'investissement privé, si je regarde depuis le Q4 2017 jusqu'à aujourd'hui, on est à moins 0,2% en Allemagne, donc totale stagnation depuis cette période-là. Aux États-Unis, c'est plus 16,3%. Donc c'est un écart qui est tout à fait historique, et malgré cela, on a une banque centrale qui continue d'appuyer sur le frein.
Orthodoxes vont vous dire que ça, c'est un problème structurel, c'est un problème de modèle économique, c'est un problème politique qui concerne les décideurs fiscaux et budgétaires. Nous, c'est le mandat de la stabilité des prix.
Oui, je ne partage pas cette...
Non, mais cette lecture-là, non, mais c'est une lecture que certaines,
oui, non, mais
certaines
personnes j'en suis bien conscient.
Ont aujourd'hui.
Oui, bien sûr, oui, non, mais j'en suis bien conscient.
Et vous disiez... L'autre facteur pour la Banque Centrale Européenne, c'est que va faire la Réserve Fédérale Américaine. Autrement dit, combien de baisses de taux est-ce que la Banque Centrale Européenne peut-elle délivrer en solo ?
Alors, juin est exclu. En gros, le premier critère pour
la Fed, oui.
Powell a dit lors de la dernière réunion, en fait, on a eu 3 mois de données qui étaient négatives. Donc, en gros, je veux au moins 3 mois de données qui soient dans le bon sens pour pouvoir y aller.
D'accord.
S'il veut 3 mois de données, en fait, ça nous pousse à juillet. Donc, juillet paraîtrait être
le premier live meeting.
Le premier envisageable. La dernière banque, le dernier grand, Goldman Sachs, envisageait que juillet était possible. Aujourd'hui, ils ont décalé, ce sera plus juillet, ce sera septembre. Pardon ?
Il reste Citi, je crois, sur Citigroup, et encore sur juillet, avec 4 baisses continues.
Mais malgré tout, comme on a eu la première donnée pour le mois d'avril qui a été plutôt favorable, si on avait mai-juin qui était également favorable, je pense que juillet reste tout de même
une possibilité. D'accord, peut revenir sur la table,
surtout si on avait un ralentissement, mais surtout pour l'économie américaine, si jamais on a quoi que ce soit qui arrive sur le niveau d'emploi, je pense qu'on aura une réaction immédiate.
D'accord.
Parce que quand on regarde la dynamique de l'économie américaine, c'est vraiment porté sur le revenu des gens qui sont au travail, et donc si on avait quoi que ce soit qui venait endommager cette dynamique-là, on aurait un risque réel très rapide qui peut se matérialiser sur l'économie américaine, et donc là, on aurait une réaction très immédiate.
Bon, que vous inspirent ces considérations de politique monétaire ? On en discute tous les jours sur les marchés, c'est la conversation perpétuelle, Benoît, mais là, bon, en tout cas en Europe, ça arrive. Qu'est-ce que ça va changer, en termes de psychologie pour les investisseurs, et puis dans la réalité un peu économique également ? Une baisse de taux en Europe, il y en aura forcément une deuxième, peut-être même une troisième si la Fed commence à s'y mettre à un moment. 50, 75 points de base de baisse de taux en zone euro, qu'est-ce que ça implique pour l'activité économique et pour les marchés ?
Déjà, ces baisses de taux, elles se justifient effectivement, la raison de revenir là-dessus, mais on est dans une situation très différente de ce qui se passe aux États-Unis. Il faut bien avoir en tête qu'on a vécu une séquence... normal d'un cycle inflationniste en zone euro. C'est-à-dire qu'on a une économie qui a atterri, qui est passée très légèrement en récession. Enfin, on est à zéro, on a des passages en récession. Donc, c'est une situation qui est fondamentalement différente de ce qui se passe aux États-Unis et probablement à quoi il fait référence lorsqu'il parle de l'inflation qui baisse assez rapidement. C'est quand on regarde l'inflation cœur-service, qu'on la retraite de l'immobilier aux États-Unis, qui lui... pèse aux États-Unis, pas en zone euro, on voit une trajectoire qui est très différente. Cette inflation cœur-service depuis septembre, elle rebondit, elle continue de rebondir assez nettement aux États-Unis, alors qu'en Europe, après un mois où on a eu un doute, elle continue de baisser assez notablement. Donc, c'est parfaitement justifié.
Et on a traversé les effets de saisonnalité de ce point de vue-là, de début d'année, etc.
Exactement.
D'accord.
Et surtout, on a évité aussi une crise financière, j'ai envie de dire.
Ah oui.
C'est que ce qui est plutôt rassurant. Et en réalité, effectivement, tout est plutôt réuni pour qu'on entame effectivement un cycle de baisse de taux. On a des taux d'intérêt de la BCE en réel qui sont nettement au-dessus de la croissance, ce qui est généralement le moment, on y reviendra probablement avec ce qui se passe aux États-Unis, où c'est pas le cas justement aux États-Unis, ce qui justifie probablement de cette persévérance. Donc ouais, tout est réuni pour voir ce cycle de baisse de taux. Si on a un peu de mieux sur l'activité en zone euro, je ne suis pas sûr que ça dissuaderait qui que ce soit de faire ce cycle de baisse de taux. Il faut le faire, vraisemblablement. C'est même plutôt bon signe, en réalité, d'avoir ces bons signes qui viennent de l'activité, parce qu'en fait, ça serait l'espoir, justement, d'éviter ce retour à des taux très bas, nuls, parce qu'on remet en route cet équilibre, plutôt, cette crainte déflationniste permanente. Donc en fait...
Donc une politique monétaire un peu pro-cyclique, dans le contexte actuel, c'est pas une erreur. Quoi.
Non, c'est peut-être même le reflet de qu'on a l'espoir d'avoir une vraie normalisation de la politique monétaire, qu'on revienne avec des taux qui sont plus bas que les taux d'aujourd'hui, mais qui sont plus normaux. Et donc, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, est-ce que ça, c'est acquis ? Alors, Là où on peut avoir de la confiance, c'est qu'effectivement, le scénario de crise financière, crise de liquidité, c'est pas du tout le plus probable. On a vu que tout était mis en place pour l'éviter. Maintenant, ça va dépendre de ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, on a des signes d'une économie qui commence à réaliser son atterrissage. Tout plaide pour que ce soit un atterrissage où ça se passe bien, etc. Mais si ça se passe plutôt mal, voilà, attention aux répercussions qu'il peut avoir du côté de la zone euro, à la fois sur la croissance, mais aussi maintenant le pilotage de la politique monétaire. C'est là où tout peut changer et où tout peut basculer.
Ouais, d'ailleurs, dans ce scénario-là où ça pourrait déraper, où ça déraperait aux États-Unis, le fait que la BCE puisse s'affranchir, j'allais dire, du feu vert de la Fed pour commencer à initier elle-même son cycle de baisse de taux, c'est plutôt une bonne gestion du risque aussi éventuelle.
Exactement.
C'est ça. Et pour la Fed ?
Ben, pour la Fed, ce qui est très intéressant, c'est que les minutes ont été complètement éclipsées par Nvidia, bien évidemment, mais il y avait quand même quelque chose d'intéressant.
Faut qu'ils revoient leur calendrier. C'est pas possible de faire un meeting de la Fed le 1er mai et publier les minutes le jour où Nvidia publie ses résultats.
C'est vrai que, alors, déjà, il y a ce contexte macro, que ce soit les données d'enquête, mais aussi les données en dur, on voit qu'il y a une inflexion. Il y a des signes d'une économie qui prépare son atterrissage. Mais ce qui était intéressant dans ce débat, dans les minutes de la Fed, c'est qu'ils sont grosso modo d'accord sur le niveau des taux, hein, sur la politique monétaire. Mais il y a une question sur, effectivement, les résultats concrets qu'on obtient sur l'économie réelle. Hein. C'est-à-dire, on se demande si c'est suffisamment restrictif ou pas sur l'économie réelle. Et c'est vrai que, effectivement, cette question se pose, puisque, évidemment, on a monté les taux, mais tous les effets collatéraux de la hausse des taux, on a tout fait pour les compenser ou en diminuer l'impact sur l'économie. Donc, c'est pas vraiment surprenant. Finalement, les effets restrictifs sur l'économie, ils sont plus tardifs, ils sont dilués. Et ce qui se passe, c'est qu'on a une croissance qui n'atterrit pas suffisamment comme ça a été le cas en zone euro. Encore aujourd'hui, les taux de la Fed déflatés de l'inflation, en réel, sont inférieurs à la croissance. Quand on regarde les prévisions des économistes, grosso modo, l'inversion, les taux passeraient au-dessus au cours du T3, c'est vrai.
Oui, parce que la croissance du T2 s'annonce encore correcte, quoi.
S'annonce correcte, mais justement, quand on regarde historiquement ce qui se passe, la croissance s'affaiblit au moment où les taux, en réel, passent au-dessus du niveau de la croissance.
J'entends.
On voit qu'il y a... Et ça a été le cas historiquement tout le temps. C'est-à-dire que pour ramener l'inflation, agir véritablement sur l'inflation et la ramener à l'objectif, depuis la fin des années 60, on a toujours eu besoin d'avoir des taux en réel qui passent au-dessus du niveau de la croissance. Même en 95, quand on a réussi à faire un vrai soft landing. Je pense que effectivement, il n'y a pas besoin de remonter les taux aux États-Unis, c'est pas ça le sujet, mais c'est effectivement de persévérer jusqu'à ce qu'on en vienne à cette situation où on aura un vrai impact tangible et constater vraiment le freinage de l'économie, où là, la Fed pourra effectivement baisser ses taux, et c'est justement au cours du T3, vraisemblablement, quand on regarde les anticipations des économistes sur la croissance.
Ouais, bon. Et une Fed, alors dans un scénario, j'allais dire économique favorable ou trop favorable, une Fed qui mettrait beaucoup plus de temps encore à initier son mouvement de baisse de taux, ça aurait là aussi un impact sur la capacité de la BCE à poursuivre son mouvement.
C'est ça, c'est ce qui serait difficile. Ça va être, on peut faire cavalier seul puisque l'économie, il y a effectivement une divergence entre les économies, mais il y a des effets qui empêcheront que ça évolue radicalement différemment. Enfin, c'est immanquablement la BCE, à un moment ou à un autre, sera obligée de prendre en compte ce qui se passe du côté des États-Unis.
Bon, comment vous regardez ça, Arnaud, notamment en tant que gérant action, est-ce que c'est un sujet qui intéresse les actions aujourd'hui, quand même, ces histoires de baisse de taux? Non, mais sachant que l'inflation est plus à 10% et que pour les marchés actions, c'est-à-dire que l'inflation soit 2,5%, 3%. Franchement, on l'a vu à travers les résultats, ça pose pas non plus de défis majeurs à ce stade-là.
Non, après on l'a vu un petit peu dans les résultats, dans les top lines qui étaient un peu en deçà. Mais le point positif, il y en a beaucoup, notamment pour la zone Europe. Aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, on a un alignement des planètes, ce qui était dit auparavant. Une désynchronisation des politiques monétaires, donc avec une baisse des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne qui va redonner un peu d'oxygène à l'économie. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Le deuxième point, c'est les révisions, on va dire, on regarde les derniers indicateurs économiques qui sont sortis, c'est le rattrapage du manufacturier qui reprend la dynamique des services. On a les indicateurs de surplus économique en zone euro qui décorrèlent clairement par rapport aux États-Unis, même par rapport au Japon, dans le même sens que la Chine. Donc un partenaire privilégié de la zone économique européenne, donc ça c'est très bien. Les révisions d'IPS qui se reprennent en zone économique européenne également, pareil, hein, au Japon c'est aussi très impressionnant, aux États-Unis aussi, mais l'Europe repart. Je reprends un exemple, hein, depuis le 31 octobre, hein, c'est pas dur, jusqu'au 15 avril, du 31, enfin, le ouais. rebond de
ouais,
8%.
La période de bull run qu'on connaît ces derniers mois.
Il se fait en récession des bénéfices, il se fait que sur les anticipations de baisse de taux en zone économique européenne, alors qu'on avait une croissance des BPA de l'ordre de 8% sur la partie américaine. Donc plein de choses qui nous faisaient poser question, aujourd'hui semblent être porteurs sur du court moyen terme pour la zone économique européenne, clairement.
Donc le marché a plutôt bien vu ce point d'inflexion qui arrive maintenant pour le momentum bénéficiaire en Europe.
Et on le voit, hein, la surperformance des marchés européens maintenant depuis 6 semaines en bourse.
Ouais.
Là sur la consolidation, enfin voilà, il n'y a pas de divergence majeure avec la zone américaine. Le Dow Jones perd 2, la zone économique européenne ça en perd 0, enfin le Eurostoxx 50 il en perd 0,50.
Ouais.
Voilà, donc plein de choses salvatrices et porteuses, on va dire, pour du court moyen terme.
Et c'est quelque chose. Ma question étant, est-ce que ça peut continuer de se diffuser? Ou est-ce que si on considère que le marché a déjà bien anticipé ce petit décollage de l'Europe accompagné de quelques baisses de taux de la Banque Centrale Européenne, est-ce qu'il y a un moment un peu by the rumor, sell the news devant nous?
Après, vous savez, on a quand même un maintien avec les niveaux de valorisation qui sont quand même aujourd'hui intéressants en zone Europe. Enfin, clairement, on a 14 fois les bénéfices. Je suis juste en dessous de la moyenne de 10 ans, je suis en dessous de la moyenne de 20 ans. C'est la seule zone, on va dire, des pays développés où je suis en dessous de la moyenne. Et j'ai des révisions de BPA. Enfin, voilà, je me répète, mais c'est quand même tendance. C'est les catalyseurs principaux.
Bah, bien sûr, à la fin de la journée, ça compte.
Voilà. Ouais. Donc, on maintient sur ces niveaux-là. Après, on verra un petit peu comment ça se passera. Est-ce qu'ils vont rebaisser en juillet? Est-ce qu'ils vont rebaisser en septembre? Après, moi, voilà, j'acte aujourd'hui la baisse des taux directeurs, une bouffée d'oxygène pour l'économie. Les boîtes qui publient bien, qui maintiennent aujourd'hui sur la partie, je vous disais, en chiffre d'affaires un peu court, mais sur la partie résultat, c'était quand même très bon en zone Europe, aux États-Unis, mais c'est toujours un peu comme ça. Donc ça, c'est quand même des éléments qui sont probants. Et un marché qui prend la densification, des taux de participation beaucoup plus importants en zone Europe. Clairement, on voit les small mid qui reprennent, on voit les cycliques, on voit les banques qui ont fait un run exceptionnel depuis 2 mois.
Alors qu'aux US, il n'y a plus que Nvidia qui monte, quoi.
Voilà,
c'était la science d'hier. Oui, hein, voilà, non, mais c'est...
Voilà, donc, après, ouais. Peut-être que sur du court terme, sur les 2 prochaines semaines, on manque de catalyseurs en amont des banques centrales. On a fini la période des publis. Le gros, on va dire, market mover, c'était Nvidia. Voilà. Donc on peut avoir une consolidation saine sur les marchés tant qu'on casse pas les 7009 sur le CAC, qu'on casse pas les 4008.
Oui, oui.
Voilà, les
fameux...
enfin,
un schéma de range de latéralisation, comme disent les analystes. Ouais. Qu'est-ce que ça change? Je reviens à cette question, mais quelques baisses de taux en zone euro, qu'est-ce que ça change sur les dimensions que vous regardez, Nicolas? Est-ce que ça change un peu le profil conjoncturel devant nous? Quel impact ça peut avoir sur le Forex? L'euro tient quand même plutôt pas mal. J'imagine que ces marchés-là ont anticipé quand même un peu de divergence de politique monétaire entre les US et la zone euro, etc., etc., quoi.
Mais au début, enfin évidemment, une baisse de taux peut avoir un impact, mais on va dire on est quand même à un niveau qui est très élevé. C'est pas les 25 points de base qui vont avoir un impact délirant. Par contre, ce qui peut être vraiment intéressant, c'est la modification du discours. Ça peut vraiment avoir un impact. C'est que ce que je disais précédemment sur cette histoire de majorité. On a une majorité qui est plutôt stricte depuis 2 ans, qui est là. Si jamais le marché comprend que on a un changement de majorité, c'est-à-dire une vision différente qui va être appliquée pour la suite de la zone euro, on peut avoir quelque chose qui peut être beaucoup plus ambitieux,
puissant,
de plus puissant et qui peut porter un peu plus la croissance européenne. On a ça et on a quand même aussi une initiative politique qui, de mémoire, n'a pas existé précédemment. Donc l'année dernière, on avait un des gouverneurs de la BCE, donc Fabio Panetta, qui avait dit en gros qu'il fallait changer le modèle européen, passer d'un modèle de demande, qui reposait sur la demande extérieure, c'est-à-dire en gros on vend à l'extérieur, on est compétitif, ce genre de choses, à passer à un modèle qui repose sur la demande intérieure, c'est-à-dire le modèle américain, qui est beaucoup plus générateur de croissance, avec des hausses de salaire.
On rappelle, 400 millions de consommateurs en Europe. Hein.
Oui, en zone euro, c'est 340 millions, c'est exactement le marché américain. Donc on a vraiment la même taille, sauf qu'on n'a pas du tout de consommation, alors qu'eux ont une économie qui est totalement tirée par cette consommation-là, et donc les entreprises en bénéficient et peuvent rayonner à l'international grâce justement à ce marché captif qui est extrêmement puissant. Il y avait cette volonté de changer de modèle européen. Cette thématique-là a été reprise par Mario Draghi dans pas mal de discours depuis environ un an, alors même que Mario Draghi a été mandaté par Ursula von der Leyen pour produire un rapport qui va être sorti là au mois de juin, juste après les élections européennes, justement pour parler de cette question-là. Et on a un président français, donc Emmanuel Macron, qui porte cette idée également, avec une volonté de modifier le mandat de la Banque Centrale Européenne pour intégrer un volet de croissance, plus, comme le dit Draghi également, faire un cycle d'investissement public assez lourd en Europe, pour pouvoir relancer la machine, et exactement dans l'objectif de modifier cette stratégie de compétitivité qu'on a en Europe depuis le début de l'existence de la zone euro, vers un modèle qui est plus celui des États-Unis. Évidemment que ça va être extrêmement difficile politiquement d'arriver à obtenir ce résultat-là, mais par contre, évidemment, d'un point de vue boursier, si en gros l'idée c'est de changer le modèle européen pour en faire un modèle de croissance comme celui des États-Unis, vous avez aujourd'hui des niveaux de valorisation et un marché qui peut être extraordinairement attrayant, c'est clair, pour les années à venir.
Ouais.
Donc oui,
j'entends, mais de ce point de vue-là, c'est vrai que ça on touche aux politiques, hein, et en Europe, tout de suite, ça complexifie le sujet. Mais je crois comprendre quand même que le marché a conscience de ces enjeux en Europe et ne fait pas trop crédit. C'est-à-dire que l'Europe doit démontrer sa capacité à générer un nouveau saut fédéral, en l'occurrence, si on parle de Draghi,
je sais pas si on a besoin, mais, besoin de ça. Alors ça, c'est peut-être l'épisode malheureux, c'est que quand on regarde ce qui a permis de faire modifier la politique européenne il y a 10 ans, c'est-à-dire le whatever it takes de Draghi, on peut assez facilement comprendre qu'il y avait une pression américaine qui était extrêmement forte, qui avait été portée sur les Européens, notamment sur Angela Merkel, qui avait en gros donné le feu vert à Mario Draghi pour aller dans ce type de direction. On a constaté aussi le voyage de Janet Yellen en Europe. Mmh. La pression qui peut exister aujourd'hui des Américains sur les Européens pour modifier cette trajectoire-là, à mon avis, existe et va se renforcer. Parce que l'idée, c'est quand même de mettre le bloc européen en ligne avec le bloc américain pour pouvoir faire face à ce qui se passe en Chine, de l'autre côté, et d'avoir un bloc qui soit un peu plus...
Et unique. Le résultat des élections européennes du 9 juin, ça peut permettre ça, Nicolas ?
Alors, en fait, c'est ça qui est... On ne peut pas dire que, enfin, heureusement ou malheureusement, les élections européennes n'ont pas un impact qui est absolument délirant sur le niveau de pouvoir européen. Ce qui est très important, par contre, c'est après les élections européennes, on va avoir une réunion du Conseil européen. Le Conseil européen est le vrai organe de pouvoir en Europe, et le Conseil européen va définir un agenda qui va être donné à la Commission européenne. C'est cette discussion-là qui va être importante. D'accord. Évidemment, les poids politiques des différents gouvernants européens va varier en fonction du résultat des élections de chacun. Donc, on peut dire que les deux grands pays ne vont pas avoir un pouvoir qui va être véritablement renforcé pendant cette séquence-là. Ça, c'est à peu près clair. Mais il est intéressant de voir que certains acteurs, notamment on peut parler de Giorgia Meloni, qui est soutenue par Draghi également, peut aussi avoir un impact qui peut être à peu près assez lourd, notamment avec ce qu'on a entendu cette semaine avec Ursula von der Leyen, ouais. qui tend
Il y a un degré d'ouverture, hein, vis-à-vis de
Meloni aujourd'hui. Intégrer Meloni dans le PPE européen, ouais. Et donc ce qui pourrait changer assez fortement les choses. Oui.
Bon, on verra la recomposition des groupes, des partis, effectivement, au sein du Parlement européen, ce que ça implique, effectivement, et notamment pour la feuille de route, on va dire, de la future administration européenne. Moi, je reviens à mon petit euro-dollar, mais enfin, je veux dire... parce que c'était le sens de ma question, mais de voir l'euro qui tient bien, même qui se réapprécie un petit peu en amont de ces baisses de taux de la BCE, c'est... Enfin, je veux dire, ça élimine la crainte, légitime ou non, j'en sais rien, que la BCE pouvait avoir sur un risque de chute de la devise, d'un retour de l'inflation importée, etc., un nouveau choc.
C'est plutôt rassurant. En fait, si on regarde depuis le début de l'année, hein, l'évolution entre les deux devises, elle reflète quoi ? Elle reflète grosso modo la dynamique macro et politique monétaire. On reste dans quelque chose qui reflète à peu près ça. Et encore une fois, ça c'est un des indicateurs qu'on va surveiller, notamment étant donné que la zone euro a déjà atterri, pour voir du côté des États-Unis comment on atterrit. En réalité, il faut qu'on reste dans une question d'atterrissage plus que de basculer dans le hard landing américain, ce qui change tout. Et ça, on peut le voir, on le verra justement à travers le comportement de la devise. En réalité, voir comme ça l'euro bien se tenir, le dollar baisser un peu là depuis mi-avril, etc., c'est plutôt rassurant.
Si on commence à avoir des mouvements plus importants, c'est que le scénario change.
Nous, on surveille justement ça, parce que voir le dollar remonter comme ça précipitamment, ça serait justement qu'on quitte ce scénario de soft news is good news, où on basculerait vraiment à... Ouais. Soft news become bad news.
Oui, c'est ça. Oui, enfin, les soft news deviennent des bad news, des mauvaises données économiques, exactement. Et là, ça change.
Et c'est là où on aura de l'aversion risque. Ouais. Et c'est justement un des paramètres qu'on surveille, comme justement la corrélation entre les marchés actions et marchés obligataires. Si on regarde, récemment, on était revenu une nouvelle fois à un pic de corrélation très positive entre les deux classes d'actifs. On est en train de le quitter, on est en train de bouger. Donc quelque chose est en train de se passer. Il y a une inflexion sur la macro américaine, où on voit les données qui s'affaiblissent. Pour l'instant, on reste dans le cadre d'un scénario, je dirais, normale, classique d'atterrissage. Voilà, il ne faut pas qu'on sorte de ce scénario. Dès lors où on sortira de ce scénario, c'est là où justement, en termes de mouvement de devise, on verra quelque chose de très différent, et notamment c'est là où le dollar remonte, c'est là où les choses sont complètement différentes.
Vous disiez tout à l'heure, en regardant justement les entreprises européennes, le retour d'un momentum bénéficiaire positif à l'issue des résultats du premier trimestre. Arnaud, concrètement, qui contribue à ce momentum bénéficiaire qui s'améliore et qui fait partie des détracteurs également à l'inverse, en miroir?
À la surprise un peu, on va dire, générale, hein, quand on regarde, c'est le secteur technologique en tout cas qui contribue le plus négativement, en tout cas sur la séquence de publication du premier trimestre de l'année. Depuis le 15 avril, poste où on a 90% des boîtes qui ont publié, j'ai des révisions bénéficiaires de moins 2,5% sur le secteur technologique. Et on le voit, hein, sur la performance boursière qui ont suivi, c'est ça qui est très intéressant actuellement sur les marchés, justement, cette corrélation vraiment entre les BPA et les cours. Et en tout cas dans les rotations sectorielles et la densification du marché. Et là où ça a révisé le plus, notamment sur la partie donc résultats, où les publications avaient été très bonnes, un peu en deçà sur la partie chiffre d'affaires, sur la partie énergie, les majors pétrolières qui sont révisées à 2,5%, c'est énorme, sur des boîtes quand même qui génèrent des free cash flow yield aux alentours de 12%, des dividendes de 5%, des rachats d'actions de 3,5%, des valorisations qui sont au niveau de 6 fois en termes de PE. Quand on regarde la relativité par rapport au secteur technologique, il est, semble-t-il, intéressant de commencer à re-regarder ce secteur-là. Surtout que là, on a un pétrole qui a corrigé d'une dizaine de pourcents. Bon, il y a toujours une corrélation. Et surtout, quand on regarde en termes de corrèle, le secteur énergie et tech, c'est vraiment ceux qui sont les plus décorrélés. Après, je dis ça, mais c'est toujours intéressant à voir dans un portefeuille, de regarder un peu comment on navigue et comment on corrèle. Et du coup, ben, on remet un peu d'énergie dans les portefeuilles. On en avait déjà, mais on en profite. Et on sait que la saisonnalité, en tout cas jusqu'au mois de septembre, est toujours assez positive, hein, quand même pour le pétrole. Et on a quand même aujourd'hui, je l'appelle la banque centrale du pétrole, hein, l'OPEP, hein, qui tient quand même des quotas, qui les a confirmés. Ouais. Et il faut profiter en fait des tensions géopolitiques qui sont, on va dire, en baisse, mais qui sont quand même toujours là et tangibles et qui peuvent, d'un moment à l'autre, s'aggraver. Donc, un secteur qu'on aime beaucoup, le secteur des utilities aussi, en se disant, aujourd'hui...
Ça a commencé à frémir un peu, là, ces derniers temps. Partant, voilà. Intéressant, parce qu'il y a autre secteur très en retard, là.
Ouais, exactement. Alors, toujours un trait corrélé au mouvement, des taux, taux longs. Et, début d'année, on a pris pratiquement 15-20 BP sur les taux longs européens. Le secteur des utilities, il a fait moins 12, moins 13, avec, on va dire, vraiment celles qui étaient les plus endettées, les utilities dans la partie énergie, les EDP, EDPR, qui font, Enel, qui font entre 10, moins 10 et moins 20. Donc il y a de quoi rattraper. On se rappelle, justement, du 1er novembre à la fin d'année, c'est un secteur qui a fait pratiquement 10%. Donc il y a une corrélation.
Dans un rallye de fin d'année alimenté par la perspective de baisse de taux massive et rapide.
Et le secteur énergie, c'est quand même important. Je reviens toujours, c'est la même chose. Certes, c'est des sociétés qui sont endettées, mais aussi c'est des sociétés qui crachent quand même pas mal, qui donnent du dividende. Nous, on aime bien. C'est défensif. On regarde toujours le spread entre les valeurs, défensives et les valeurs un peu plus croissance. Le spread, on avait pratiquement. On était au plus bas des deux dernières années. Donc,
d'accord.
Toujours, ça milite, on va dire, pour un retour. Et c'est sain sur les marchés d'avoir des mouvements comme cela. Donc, on aime bien les utilities. J'avais parlé à la dernière émission, on avait intégré Veolia Environnement.
Ouais.
Je sais pas si vous avez vu, mais elle a pris pratiquement une douzaine de pourcents.
Ça a bien tenu,
Très bonne publication. Ça allait dans le sens, le cahier des charges, on a de la visibilité. Et si, en plus, la reprise économique se concrétise
oui,
en zone euro.
Se renforce.
Il y a quand même une partie cyclique dans Veolia Environnement, c'est la partie déchets. Alors c'est beaucoup plus diversifié qu'il y a 15 ans sous Proglium. Proglium.
Oui.
Et tout à fait. Donc voilà, une société qui a énormément changé. Donc,
c'est un bon profil pour vous à avoir là pour la séquence de marché
Veolia,
du deuxième semestre. Si on va chercher un peu l'idée des retardataires avec la perspective de baisse de taux, est-ce qu'il faut descendre en taille de capi?
Exactement, c'est ce qu'on fait. On en avait parlé en fin d'année, c'était un peu l'idée qu'on avait un peu tous, un peu aussi peut-être en manque d'idées après le formidable rallye. Mais là on le regarde, ça se matérialise, les small bids elles ont pris pratiquement 7-8%, en tout cas en spread sur les 6 dernières semaines. On le voit aussi, on a des flux qui re-rentrent un petit peu quand on parle aux gérants des small mids, et ça c'est important, les flux c'est ce qui matérialise quand même la performance sur les small mids. On entend dire, alors c'est toujours que les investisseurs américains aussi regardent un petit peu l'univers des petites et moyennes capitalisations
européennes,
parce que la valorisation n'est pas attractive.
Mais qui trouve des idées aujourd'hui.
Vous êtes à 8-9 fois, alors la valo ne fait pas tout, mais c'est comme des sociétés à forte croissance qui ont délivré des bons résultats. Les révisions de BPA ont été un peu plus négatives sur la séquence, mais en général, celles où on aime bien reprendre, et on reprend toujours, si on a une reprise économique un peu plus tangible, un peu plus dynamique. Excusez-moi. Les petites et moyennes capitalisations.
J'espère que si les Américains se mettent à acheter nos small et mid cap, j'espère que les Européens ne seront pas en reste non plus de ce point de vue-là.
Enfin, exactement. Après, tout le monde regarde, tout le monde en parle, donc on le voit passer partout. Enfin, clairement, c'est ce
qui est. Oui, bien sûr. Maintenant, oui, mais sauf qu'on en parle depuis longtemps. Alors, il y a eu la fin d'année, mais bon, le premier trimestre n'a pas été très favorable à nouveau. Enfin, c'était plutôt large over mid et small quand même.
On avait trois valeurs qui tiraient l'Eurostock 50 jusqu'au 20 février.
C'est vrai.
Mais le point important, pourquoi ça a mal marché sur les small mids, clairement c'est la remontée des taux directeurs, c'est l'inflation, qu'elles ont quand même pas mal du mal à digérer, et en plus vous avez ce qu'on disait tout à l'heure, une économie européenne qui a ralenti quand même assez fortement et qui était pratiquement en récession, donc vous avez les trois piliers de contre-performance.
De vent contraire parfait pour cette classe d'actifs.
C'est une classe d'actifs à aller regarder. Et sur du moyen long terme, ça surperforme les grandes capitalisations. C'est du 7% sur les 10 dernières années, les grandes, et les petites et moyennes, malgré les deux années de contre-performance, c'est du 9%.
D'accord avec l'idée, Benoît, qu'il faut que là, le marché, les investisseurs, et notamment peut-être anglo-saxons et les investisseurs américains, ont besoin un peu de nouvelles idées, que l'Europe peut en faire partie. En tout cas, de tout ce qui sort de la zone Amérique, tech, US, etc., peut être quelque chose de plus attractif à ce stade.
Ça peut l'être. Encore une fois, ça fait un moment d'ailleurs sur cette question des small mid où la tentation est forte de vouloir y revenir.
C'est l'éléphant dans la pièce, évidemment, depuis un moment.
En termes d'allocation active, ça met d'ailleurs tout le monde à risque, ce genre de choses, puisqu'un simple retour à la moyenne, ça peut être très douloureux si on n'en profite pas. Mais je pense que tout cela va dépendre encore une fois de ce qui va se passer aux États-Unis. Pour voir des investisseurs américains qui s'intéressent aux small mid, il faudra attendre de voir effectivement qu'on baisse les taux aux États-Unis, qu'en fait, on évite. Pourquoi les small mid souffrent autant? Parce que tout simplement, elles sont endettées majoritairement plus à taux variable, parce qu'elles sont plus. Elles ont un profil plus fragile en réalité.
Elles ont moins d'accès au marché de capitaux.
Exactement. Pour financer,
et donc, etc.
J'ai envie de dire, le cycle est quasiment secondaire dans l'appréciation de la valorisation des small mid. Et paradoxalement, si justement on voit l'économie freiner enfin aux États-Unis, que globalement. Alors, ça peut être pas mal en Europe, parce que si en relatif, c'est un peu mieux en Europe. C'est totalement secondaire. Ce qui sera vraiment important, c'est qu'on soit rassuré sur le fait qu'on entre dans plutôt un cycle de baisse des taux, qu'on évacue ce risque d'avoir des taux encore plus élevés. Et là, on aura effectivement, je pense, un levier qui peut être assez puissant en faveur des small mid, même si l'économie aux États-Unis se met à freiner. Donc, c'est vraiment ça pour nous le paramètre. Donc, c'est peut-être encore un peu tôt, mais effectivement, on s'en rapproche très concrètement.
Ouais. Qu'est-ce qui peut se passer après le 5 novembre, Nicolas? Alors, choisissez votre angle, mais du point de vue de la politique monétaire, du point de vue des sujets d'attention du marché, Biden-Trump, évidemment. Est-ce que il y a des points de convergence, que ce soit Biden ou Trump? Est-ce qu'il y a des différences importantes? J'imagine que ça va remettre un peu le nez de tout le monde sur la question de la trajectoire des déficits américains et donc, par corrélation, sur la trajectoire de la politique monétaire américaine pour 2025.
Alors, je crois que les probabilités aujourd'hui, c'est quand même plutôt Trump. On a eu un discours aujourd'hui qui était, à mon avis, plus qu'intéressant, qui est de Christopher Waller, qui est un des membres du board de la Fed, qui a été nommé par Donald Trump et qui, à mon avis, fait figure peut-être de favori pour prendre la suite après, si Powell est limogé par... Enfin, quand Powell arrivera à la fin de son mandat, que Trump mette
Chris Waller
à sa place. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que là, ça fait 6 mois que Waller fait des discours plutôt sur la conjoncture, donc il ne s'est pas trop engagé, et là aujourd'hui c'est un discours beaucoup plus lourd sur ce qu'on appelle le R-Star, donc le taux d'intérêt naturel, en indiquant que déjà qu'il ne croit pas beaucoup à cette approche-là, mais que s'il y a bien un facteur qui peut pousser les taux d'intérêt naturels à la hausse, c'est la question budgétaire et la trajectoire fiscale américaine. Ce qui, à mon avis, est effectivement un peu un signal donné aux politiques. En gros, si vous voulez des taux bas, il faut peut-être se calmer un petit peu au niveau budgétaire, ce qui est de bonne guerre, à mon avis, de son point de vue. Par contre, il y a eu des rumeurs, des papiers qui ont été écrits sur le fait que Donald Trump a consulté, notamment, pour éventuellement remplacer Powell par une autre personne que Waller. Et là, les profils qui sont sortis, on parle de Jody Shelton, Kevin Assett, ce genre de choses... Ce qui serait, à mon avis, une catastrophe absolue et un risque.
Ça mettrait un risque sur la signature américaine.
ça va être un risque sur l'économie mondiale, je pense.
Sur l'économie mondiale. Voilà.
Parce que, en gros, c'est des gens qui sont quasiment favorables au retour de l'État long mort. Si vous avez ce genre de personnalité qui arrive à la tête de la Fed, vous perdez effectivement pas mal de crédibilité. Ce qui est rassurant, par contre, c'est que le mode de fonctionnement américain, la nécessité de passer par la commission bancaire du Sénat, bloque pas mal ce genre de domination.
Que Jody Shelton. Toutes les idées un peu farfelues, quand même, vous dites, devraient normalement être mises de côté assez vite.
Ouais, ça reste. Ça reste des choses sérieuses, donc voilà, on a besoin de passer par le comité bancaire du Sénat, mais si jamais les Républicains arrivent à obtenir une majorité suffisante, ils pourraient peut-être arriver à passer quelqu'un qui soit de ce profil-là, mais qui serait effectivement un risque très important pour la suite des opérations. Cela dit, quand on regarde le premier mandat de Donald Trump, il est plutôt favorable à une politique de taux bas en général. Oui. Il a même critiqué largement Jerome Powell pour ces conditions-là. Oui. Il me paraîtrait donc farfelu de sa part de mettre quelqu'un qui serait dans une position qui sera radicalement opposée à cette approche-là. C'est les rumeurs qui sont sorties, donc il faut bien les prendre en compte. Ça me paraît quand même très improbable.
Il veut des taux bas et un dollar faible.
Un dollar faible et voilà. Et on a eu son Robert Lighthizer qui était son ancien ministre du commerce, qui lui souhaite effectivement avoir une dévaluation du dollar pour pouvoir faire en sorte que l'économie américaine soit encore plus compétitive qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Voilà. Bon, on verra. En parallèle de ça, il y a quand même ce qui se passe au Royaume-Uni. On verra l'élection du 4 juillet. Intéressant, parce que le Royaume-Uni est un des seuls grands pays, le seul grand pays G7, qui a connu ce moment trust, hein, comme on dit, où on a vu quand même le marché mettre un stop violent à des idées fiscales ou budgétaires qui étaient jugées un peu trop hasardeuses.
Le cas américain est vraiment très particulier.
Parce que ce sont les États-Unis.
Parce que ce sont les États-Unis.
D'accord.
C'est vraiment. C'est quand vous êtes la Chine, quand vous êtes l'Arabie Saoudite, quand vous avez des réserves énormes, le seul placement possible, ça reste les États-Unis. En fait, il n'y a pas d'alternative. Si vous voulez de la croissance, si vous voulez quelque chose, une signature qui soit correcte, il n'y reste que les États-Unis. Donc, c'est même pas une question de. Les États-Unis, à mon avis, n'ont pas à avoir peur de perdre justement le statut du dollar. C'est une contrainte, justement, parce que l'économie américaine est puissante. Et si les Européens voulaient avoir un dollar, un euro qui ressemble un peu plus au dollar, pour ça, il faudrait de la croissance et avoir une politique qui soit un peu différente.
Trump, Biden, le 5 novembre, c'est peut-être pas tout de suite dans les marchés, mais ça va forcément nous accompagner et monter en puissance au fur et à mesure que le temps passe. Encore une fois, sur des marchés d'actions notamment, est-ce que ça peut générer...
Le risque principal, on va dire, c'est un protectionnisme trop important de la part des Américains. Voilà, Monsieur Biden a-t-il fait pire ou moins que Monsieur Trump en termes de protectionnisme? Clairement pas. Enfin, il a été quand même assez offensif là-dessus. On le voit encore il y a quelques jours sur les...
Il n'est pas revenu sur les tarifs Trump, par exemple. Oui,
clairement pas.
C'est
sûr. Il a piqué des nouveaux tarifs douaniers et on va sur... Là, je vous parle du solaire parce que c'est l'actualité, mais le solaire américain, clairement, il a piqué des tarifs douaniers sur les panneaux, sur l'importation des panneaux solaires chinois. Il a raison. mais voilà, après, c'est... Voilà, moi, je ne vois pas de risque, en tout cas. Enfin, pour nous, ce qu'on n'aime pas sur les marchés, c'est un protectionnisme démesuré.
D'accord.
Et voilà, enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Et je me dis que Trump, voilà, enfin, c'est plus oral que M. Biden a déjà fait beaucoup de choses. Enfin, aller plus loin, après, c'est comment va-t-il gérer la partie budget?
Tout le monde se demande, effectivement.
Je n'ai pas la réponse.
je crois que le textbook Trump, c'est assez simple. Hein, baisse les impôts partout où on peut les baisser.
C'est ça qui est
pour tout le monde, quoi.
Déconcertant. Et qui peut être un problème sur l'année 2025.
Hein, ouais. Bon, c'est ça peut remettre en cause tout ce qu'on s'est raconté jusqu'à présent sur la trajectoire notamment de la Fed, à un certain point.
On ne sait jamais avec un personnage comme Trump, en l'occurrence, mais il y a peut-être
mais
un
rappel... Mais même Biden 2, je me demande aussi ce que Biden 2 donnerait. Est-ce que c'est une continuité de son mandat ou est-ce que ça peut apporter aussi des éléments nouveaux pour le marché?
J'ai envie de dire, en termes de dépenses, etc., on voit qu'en fait, au final, c'est un peu le même profil. C'est deux façons différentes.
Alors on aboutit au même déficit, toi.
Exactement.
D'accord.
C'est à peu près...
Il y a des chèques d'un côté, des baisses d'impôts de l'autre.
Il y a quand même un paramètre, j'ai envie de dire, avant l'élection même, qui va être important, c'est que cette capacité à dépenser très fortement, elle vient aussi d'une situation particulière où on a entretenu des conditions de liquidité qui étaient très favorables pour le faire. Encore une fois, c'est la première fois où on a mis en place tout un tas de moyens pour opérer un resserrement monétaire d'ampleur, baisser la taille du bilan de la réserve fédérale dans des conditions de liquidité qui ont été très satisfaisantes. Si on n'avait pas eu ces conditions de liquidité très satisfaisantes, les réserves des banques notamment auraient été mises à contribution et il n'est pas du tout acquis que l'État américain se serait permis de dépenser autant. Donc je pense que d'ici les élections, et effectivement le discours est intéressant de ce point de vue-là, c'est que ce sujet de la dépense va revenir de façon beaucoup plus aiguë d'ici les élections. Et je ne suis pas sûr que, effectivement, si Waller fait figure d'un possible successeur à la Fed, etc. Je suis pas sûr que Trump utilise son premier mandat comme un exemple de ce qu'il compte faire. Je pense qu'on aura un discours qui peut être assez différent sur la dépense, justement, qui peut avoir justement un point de différenciation assez important.
On par rapport à ce quelque chose d'assez traditionnel chez les Républicains, de l'idée d'une orthodoxie budgétaire ou d'un peu plus de rigueur par rapport aux années folles.
Je pense que vu le profil de dépense exactement des derniers trimestres, il ne faut pas grand-chose pour faire preuve d'une...
Oui. Enfin, voilà. Mettre un peu de nuance,
ce sera pas d'austérité, de simplement lever un peu le pied sur la dépense. Quoi. Ouais. Donc je pense que c'est un vrai point de différenciation d'ici les élections qui sera intéressant.
Ouais. Mais la curiosité, c'est qu'il y a plusieurs équipes autour de Trump. Et que chaque équipe a ses idées et que lui, il n'a pas encore choisi quelle équipe il va prendre avec.
J'ai même vu, mais je le racontais hier, Peter Navarro, qui était donc le conseiller au commerce extérieur de Trump, l'auteur de The Death by China, etc. Il est en prison, là. Il fait ses interviews. Non, mais il fait ses interviews en prison, il écrit ses articles en prison, parce qu'il n'a pas voulu témoigner sur les événements du Capitole du 6 janvier. Donc je crois qu'il a une petite peine de quelques semaines ou quelques mois, mais il donne quand même des interviews, je crois encore.
Et des conseils.
Et des conseils, évidemment, depuis sa prison. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nicolas Gotzman, la financière de la Cité, Arnaud Morel, premier par Asset Management, et Benoît Pelloual, Natixis Wealth Management.